Chapitre 10. L'oiseau qui tapait à la fenêtre. L'oiseau qui était entré par la fenêtre avait été bien accueilli, mais il était reparti sans montrer la moindre gratitude. Il pouvait bien revenir, cogner du bec à la fenêtre, il ne recevrait plus la moindre miette d'amour. Alice, l'esprit résolu, l'avait décidé. Malgré ses allures humbles, les heures passées à repriser les chaussettes, à préparer les tartines des enfants, à pousser le landau dans les allées, il y avait une fierté chez elle, une conscience de sa dignité de femme, qui n'aurait pu être plus forte chez une femme bien née, riche ou à la mode. Elle ne réclamait rien, elle ne s'attendait pas à être admirée. Elle s'était contentée de prendre le monde tel qu'il se présentait à elle, sans penser beaucoup à l'amour. Quand John Rossiter s'était montré pour la première fois à Beetham, à son retour des Indes, et qu'il s'était montré si chaleureux, trop chaleureux, avec son ancienne camarade de jeu, elle n'avait pas pensé un seul instant qu'il pourrait devenir plus que son ancien camarade de jeu. Son cœur était trop précieux pour qu'elle le donne avec légèreté au premier venu. Puis l'oiseau était entré par la fenêtre, et sa présence avait été délicieuse. Mais même pour lui, elle n'aurait rien changé à ses manières, à moins que, par chance, un jour, elle ne finisse par lui appartenir. Alors, il serait de son devoir de s'abandonner complètement à lui. Mais en attendant, même s'il lui laissait percevoir par de petites allusions que ses servitudes domestiques pourraient un jour se terminer, elle n'en accomplissait pas moins ses devoirs avec application. S'il lui plaisait de l'accompagner quand elle promenait les enfants, il était le bienvenu. S'il avait envie de la voir quand elle reprisait les chaussettes ou préparait des tartines, qu'il vienne la voir. Et s'il trouvait tout cela dégradant, alors qu'il reste chez lui. Et ses sentiments s'étaient développés, jusqu'à ce qu'elle se retrouve surprise et, comme qui dirait, prise au piège de l'amour. Mais elle était restée calme, elle s'était courageusement cramponnée au landau, et son comportement était devenu un peu plus froid qu'auparavant. C'est alors que le major Rossiter, comme le sait le lecteur, avait rendu deux visites à Brook Park. L'oiseau pouvait toujours frapper du bec, on ne lui ouvrirait plus jamais la fenêtre. Mais l'oiseau, à partir du moment où il avait fait ses bagages à Brook Park, avait décidé qu'il franchirait à nouveau la fenêtre, ou tout au moins qu'il s'y présenterait et la frapperait du bec avec constance pour demander qu'on lui ouvre. Quand il pensait maintenant à ces deux jeunes filles, la féminité de l'une comparée au matérialisme de l'autre le séduisait complètement, mais à aucun moment son cœur n'avait véritablement penché vers la jeune athlète de Brook Park. À aucun moment, ou presque, il n'avait été infidèle à Alice. Mais pendant un temps, il avait été sensible à ce qui brille, et pendant un temps, il ne se satisfaisait plus de l'aspect plus terne de l'or pur. Il avait désormais honte de lui-même, et il savait quelle douleur il avait causée. Il avait compris très clairement, à travers ses discussions avec le père et la mère d'Alice, et avec d'autres aussi, qu'il y avait ceux qui pensaient qu'il épouserait Alice Dugdale, et ceux qui espéraient qu'il épouserait Georgiana Wanless. Mais maintenant, enfin, il pouvait affirmer qu'aucun amour autre que celui qu'il sentait vibrer dans son cœur à présent n'aurait pu être possible. Mais il était conscient aussi qu'il aurait beaucoup à faire pour retrouver l'estime de la jeune femme. Il ne pouvait oublier le regard d'Alice et ses manières tandis qu'elle le saluait devant le portail. 2 mois passèrent avant qu'on ne le revît à Beetham. En fait, son devoir l'avait appelé ailleurs durant cette période, et il fit en sorte qu'on le sache à Beetham. L'information, sous une forme ou une autre, parvint jusqu'à Alice. Extérieurement, elle n'y prêta aucune attention, mais en son fort intérieur, elle se disait que ceux qui se donnaient du mal pour lui faire parvenir cette nouvelle en seraient pour leurs frais. « Les hommes viennent et les hommes vont », chantait-elle doucement. Comme il la connaissait peu, ceux qui venaient à elle avec des nouvelles sur les allées et venues du major Rossiter. Puis, un jour, il revint. Un matin, au début du mois de décembre, le fait, incontestable, fut annoncé à table. « Le major est au presbytère », dit la servante. Mrs. Dugdale regarda Alice, qui continuait à servir le hachis de mouton avec un calme imperturbable. Ensuite, on ne dit plus un mot sur lui. Le docteur avait demandé à sa femme de garder le silence, et même si elle mourait d'envie de parler, elle parvint à se contenir. Après dîner, on se livra aux tâches domestiques habituelles, puis ce furent les jeux dans le jardin. Le temps était sec et clément pour cette période de l'année, si bien qu'Alice était occupée à pousser deux enfants sur la balançoire quand le major Rossiter franchit le portail. Minnie, qui était sa favorite, se mit à courir vers lui et il traversa lentement la pelouse jusqu'à l'arbre où était installée la balançoire. Pour un instant, Alice s'arrêta afin de pouvoir lui serrer la main, puis elle retourna à sa place. « Si je devais m'arrêter avant que ce soit le tour de Bobby, dit-elle, il trouverait cela injuste. »« Non, je trouve pas, dit Bobby. Tu peux aller si tu veux. »« Mais je ne peux pas y aller, Bobby, et le major Rossiter pourra trouver maman dans le salon. » Et un moment, Alice envisagea même de mettre son chapeau et de partir. Puis elle se dit que fuir serait manquer de courage. Elle n'allait pas partir chaque fois que cet homme viendrait. N'avait-elle pas une fois pour toutes décidé en son fort intérieur qu'il n'était rien pour elle? Alors elle se mit à balancer les enfants, très posément, afin de se convaincre que la visite du jeune homme ne l'avait pas perturbée. 10 minutes plus tard, le major était là à nouveau. Il était naturel de penser que la conversation avec Mrs. Dugdale ne le retiendrait pas très longtemps. « Puis-je pousser l'un des enfants un moment ?» demanda-t-il. « Eh bien non, je ne crois pas. C'est ma façon de faire de l'exercice, et je n'y renonce jamais. » Mais Minnie, qui savait ce que le robuste bras d'un homme pouvait faire, fut intraitable, et le major prit possession de la balançoire. Mais soudain il s'arrêta. « Alice, dit-il, je veux que vous veniez faire un tour avec moi sur la route. »« Je ne sors pas aujourd'hui, dit-elle. » Sa voix était ferme et bien contrôlée, mais ses joues s'empourprèrent légèrement. « Mais je vous le demande expressément, vous devez venir aujourd'hui. » Elle n'avait qu'un instant pour réfléchir, mais elle prit cet instant pour reconsidérer la chose. Si le jeune homme décidait de lui parler sérieusement, elle devait l'écouter, une fois et une seule. Il avait le droit de demander cela. Lorsqu'un tel oiseau vient frapper du bec de cette façon, il faut bien lui prêter une certaine attention. Alors elle mit son chapeau et, passant devant lui, elle ouvrit le portail et s'engagea le long de la route en s'éloignant du village. Pendant quelque temps, ils ne parlèrent pas, et ce fut elle qui, la première, lui dit « Je ne peux rester dehors bien longtemps, Major Rossiter, alors s'il y a quelque chose… » « Il y a quelque chose, Alice. » Bien sûr, elle le savait, mais elle était résolue, résolue. Chaque moment de sa vie, depuis qu'ils s'étaient séparés, n'avait-il pas été consacré à renforcer cette résolution? Chaque coup d'aiguille dans le calicot n'avait fait que renforcer sa détermination. Et maintenant, il était là. Oh, comme il était doux de la voir là, du temps où ses résolutions étaient d'une toute autre nature. Mais elle avait été punie pour cela, et elle était maintenant assez forte pour prévenir de futures souffrances. « Alice, il vaut mieux dire les choses simplement. Je vous aime, et je vous ai toujours aimé de tout mon cœur. » À ce moment, Alice fronça légèrement les sourcils et affermit ses pieds sur le sol, mais elle ne dit pas un mot. Oh, si seulement cela était arrivé plus tôt, quelques semaines plus tôt. « Je sais ce que vous allez me dire, mais je voudrais que vous m'écoutiez, si c'est possible, avant de le dire. Je vous ai donné des raisons d'être fâchée contre moi. »«
Oh non !» s'écria-t-elle, l'interrompant.
« Mais je n'ai jamais été un seul instant infidèle envers vous. Vous sembliez me mépriser. »
Et si tel était le cas ?«
Cela passerait. Si vous me méprisiez maintenant, je pourrais le supporter. Et même si vous me disiez en me regardant droit dans les yeux que vous ne m'aimez pas, je pourrais le supporter. Mais j'ai tant d'amour dans mon cœur qu'il faut que je vous en parle. Jour et nuit, il m'emplit entièrement. » Je ne peux penser à rien d'autre. Je rêve que je tiens votre main dans la mienne, et quand je m'éveille, je pense que cela ne sera jamais. »
Sur le moment, elle eut la tentation de laisser glisser ses doigts dans les mains du jeune homme, mais elle ne fit que joindre ses deux mains entre elles, afin qu'aucun doigt rebelle ne s'aventure dans cette direction et ne la trahisse.
« Si vous ne m'avez jamais aimé, si vous n'avez jamais pu m'aimer, dites-le-moi et je partirai. »
Elle aurait dû parler alors, à l'instant, mais elle ne fit que laisser aller son pied sur le gravier, en restant silencieuse.
« Que je sois puni me semble mérité. Que la punition s'étende à nous deux, voilà qui ne serait pas juste. »
Elle ne voulait pas le punir, elle ne voulait que se montrer brave. Mais si se montrer ferme ne revenait qu'à le rendre malheureux, alors était-il juste qu'elle soit ferme ?
Il serait bien dommage qu'après s'être tant fortifiée, elle succombe au premier mot. Mais pour son salut à lui, pour son salut à lui, ne pourrait-elle pas supporter même cela ?
Si vous ne m'avez jamais aimé, si vous n'avez jamais pu m'aimer, dites-le-moi, et je partirai. Elle s'était promis de ne pas mentir, même à elle-même. S'il lui avait demandé sans détour d'être sa femme, elle aurait pu répondre qu'elle ne le serait pas. La voie, ensuite, aurait été tracée toute droite devant elle. Mais que répondre à la question qu'il lui avait posée ? Pouvait-elle dire qu'elle ne l'avait jamais aimé, ou même qu'elle ne l'aimait pas ?
« Alice, » dit-il, lui posant la main sur le bras.
« Non, Alice, pouvez-vous me pardonner ?»«
J'ai déjà pardonné. »
« Et ne m'aimerez-vous pas ?»
Elle tourna la tête vers lui, dans l'intention de froncer les sourcils, mais l'intensité du regard du jeune homme était trop forte et eut raison d'elle, et une larme apparut au coin de son œil, et sa lèvre trembla, et elle réalisa enfin que sa grande résolution n'avait jamais rien représenté pour elle. Il me reste à ajouter que, bien avant le mariage d'Alice, Sophia et Georgiana Wanless se marièrent toutes deux. Sophia en premier, comme il se doit, au jeune Cobble, et Georgiana à Mr. Burmeston, le brasseur. Ceci, comme le lecteur pourra s'en rendre compte, était tout à fait inattendu. Mais c'était un grand principe bien établi chez Lady Wanless que les filles devaient se marier, chacune à leur tour. Anthony Trollope. Alice Dugdale. Traduit et lu par Vincent Delépine pour littératureaudio.com.